Le 7 novembre 1952 à 19h25, un étrange événement se produisit dans une grande ville de province. 3000 personnes, massées devant le palais de justice, acclamèrent en chœur une femme qui avait tué son mari de 5 balles de revolver.
Dans la France des années 50, cet immense soutien populaire à une meurtrière a de quoi surprendre. Surtout quand la victime est un héros de la résistance et un homme politique en pleine ascension. Mais cet épilogue inattendu d'un drame de la vie conjugale n'arrive pas par hasard, et c'est ce que nous allons vous raconter aujourd'hui.
Vous écoutez Fait d'hier, le podcast du magazine Femmes Actuelles Senior. Chaque semaine, nous nous replongeons avec vous au cœur des grandes histoires criminelles. Dans cet épisode, l'affaire Yvonne Chevalier.
En ce 16 août 1951, c'est jour d'obsèques nationales. Orléans est en deuil. Pierre Chevalier, son député-maire, vient de mourir. Les gens se pressent derrière les barrières pour regarder passer le corbillard. Le président de la République en personne, Vincent Auriol, a fait le déplacement pour assister à la célébration. L'ambiance est lourde. Le journaliste et homme politique Roger Secrétin, ami de Pierre Chevalier, résume le sentiment que tous partagent. « Nous sommes sous le coup d'un tel drame que 4 jours écoulés ne nous ont pas permis de reprendre nos sens et le cours normal de nos pensées. L'heure est à la tristesse. Les Orléanais pleurent à la fois un homme, un héros de la guerre et une personnalité. » Il faut dire que Pierre Chevalier dirigeait la ville depuis la Libération. Il a travaillé d'arrache-pied à la reconstruction de la cité ravagée par la guerre et s'était lancé dans une carrière politique. Il siégeait à l'Assemblée nationale et juste avant sa disparition, le nouveau gouvernement Plévin l'avait nommé secrétaire d'État. Nous savions qu'il avait la stature d'un homme d'État, s'attriste Roger Secrétin. Au moment où la France a tant besoin d'hommes, nous avons le droit d'affirmer que la disparition de celui-ci est une perte irrémédiable. Mais qu'est-il donc arrivé à Pierre Chevalier ? Qu'est-ce qui a si brutalement brisé l'ascension de cet homme promis aux plus hautes fonctions ? Pour comprendre l'engrenage qui a conduit à l'irréparable, il faut remonter le fil jusqu'à l'avant-guerre. Pierre est alors interne à l'hôpital d'Orléans. C'est là qu'il rencontre Yvonne. Elle est sage-femme. Un soir, elle l'interroge sur un point de côté qui l'a fait souffrir. La consultation improvisée s'éternise et la discussion dure jusque tard dans la nuit. Yvonne tombe immédiatement sous le charme de ce jeune homme plein de vitalité qui voit la vie comme un jeu. Le coup de foudre est réciproque et ils se revoient le lendemain. Très vite, ils deviennent amants. C'est le début d'une histoire d'amour comme il en existe beaucoup. Enfin presque, car Yvonne et Pierre ne viennent pas du même milieu et cette différence sociale va marquer leur couple et leur destin d'une manière tragique. Pierre est le fils d'une ancienne famille bourgeoise orléanaise, petit-fils de médecin et fils d'un maître potier respecté. Yvonne, elle, a des parents paysans. Elle a fréquenté une pension religieuse où on lui a enseigné la discrétion et la dévotion. Elle y a acquis une docilité qu'elle entend bien offrir à Pierre sans partage. Mais chez les Chevaliers, on regarde d'un très mauvais œil cette relation et l'on dit que cette Yvonne n'est rien d'autre qu'une erreur de jeunesse qu'il faudra vite corriger. Quand la guerre éclate en 1939, les parents de Pierre se rassurent. Le conflit et l'éloignement devraient mettre un terme à cette idylle. Le jeune médecin part sur le front. Il s'y montre infatigable et dévoué. Il sacrifie ses nuits, prend tous les risques, ne refuse aucun patient et court de lit en lit pour sauver des vies. « Je n'avais pas peur et ne craignais pas la mort », racontera-t-il. Mais il n'oublie pas Yvonne. En décembre 1939, il rentre en permission et en profite pour épouser la jeune femme. Malgré la désapprobation de ses parents. Il veut la protéger en lui donnant son nom, au cas où il mourrait au combat. Sa famille ne lui pardonnera jamais cette trahison. Un an plus tard, le couple accueille son premier enfant, Tugal, né en 1940, puis Mathieu, en 1945. Si Pierre échappe à la mort, il n'est pas épargné pour autant par le conflit. Le 23 juin 1940, il est fait prisonnier. Libéré en 1941, il revient à Orléans, auréolé de gloire et décoré de la Croix de guerre. Dans un rapport, ses supérieurs louent sa bravoure sans égale. Les jeunes mariés se retrouvent enfin, mais ils n'en ont pas fini avec les épreuves. Pierre entre dans la résistance. Il intègre le comité directeur du mouvement Libération Nord et doit prendre le maquis. En 1945, quand il rentre enfin à Orléans, c'est un héros. Il est au fait de sa gloire, on lui remet les clés de la ville. Il est maire. Mais déjà, le valeureux jeune homme vise de plus hautes fonctions encore. Yvonne se réjouit d'avoir retrouvé son mari, pas pour longtemps. Très vite, elle se rend compte qu'un nouvel obstacle s'est dressé entre eux. L'ambition de Pierre. Elle se plie pourtant aux moindres volontés de son brillant époux. Mais cela ne lui suffit pas. Il exige qu'elle joue pleinement son rôle de première dame d'Orléans. Et ça, Yvonne ne sait pas faire. Lors des mondanités auxquelles elle doit assister, elle reste dans son coin, perdue, silencieuse, un verre à la main. Il faut imaginer cette fille de paysan, humble et chrétienne, propulsée dans les milieux bourgeois et toisée par des regards dédaigneux. La seule perche à laquelle elle se raccroche désespérément, c'est sa dévotion sans limite à Pierre. L'amour est son seul oxygène. Comme Pierre s'agace de sa gaucherie, de ses silences, elle redouble d'efforts. Elle se maquille, elle essaie de faire bonne figure au milieu des élégantes de salon. Mais l'exigeant époux n'est jamais satisfait. Il ne la trouve pas au niveau. Il ne voit en elle qu'un être falot et mal fagoté. Yvonne se désespère et tente tout pour devenir la femme qu'il voudrait qu'elle soit. Elle lit des livres, s'efforce d'apprendre par cœur des passages de chroniques littéraires. Pourtant, en dépit de sa bonne volonté, son mari a honte d'elle et le lui fait savoir. Petit à petit, il l'écarte des cérémonies officielles et la délaisse. Plus il s'élève et brille dans les hautes sphères, plus Yvonne devient l'ombre d'elle-même. Si Pierre n'a jamais été très affectueux, à présent, il est glacial. Un jour, elle passe plusieurs heures à s'apprêter en vue d'une réception. Et Pierre oublie de venir la chercher. Leur relation ne fait que se dégrader. Bientôt, ils font chambre à part. Yvonne souffre. Elle essaie de parler à son mari. Lui s'emporte. « Tu fais tout pour t'opposer à mon ascension. Tu veux quoi ? Une petite vie étroite, étriquée ?» À ses yeux, elle ne représente plus qu'un frein, un être faible et indigne de lui. Les crises se multiplient, à chaque fois plus dures. La spirale de la rancœur s'installe et Pierre dévoile un nouveau visage, celui de la violence. Lors d'une dispute, il la frappe. Les enfants dorment à côté, elle ne crie pas. La rupture est consommée. La mécanique qui va conduire au drame est enclenchée. Désormais, Pierre passe la moitié de son temps à Paris, dans une petite chambre d'étudiant. Yvonne, elle, reste seule à Orléans. Elle se tourmente, elle l'imagine en compagnie de femmes. Un jour, elle lui demande s'il a une maîtresse. La réponse cinglante fuse. « Mais il y a toutes les autres femmes, ma pauvre, sauf toi. Tu ne comptes pas, tu es hors jeu. » Yvonne est accablée, rongée par la jalousie. Pour en savoir plus, elle fouille le bureau de son mari. Et puisqu'elle cherche, elle trouve. Elle découvre la lettre d'une certaine Jeanne Perrault. Yvonne la connaît. C'est une jeune et belle personne à la chevelure rousse éclatante, l'épouse de Léon Perrault, un homme d'affaires orléanais. Et Pierre est fou amoureux d'elle. Le monde d'Yvonne s'écroule et personne n'est là pour la soutenir. Lorsqu'elle décide de prévenir Léon Perrault que Jeanne est la maîtresse de Pierre, il les conduit. Il sait déjà et il s'en moque. Et quand elle aborde le sujet avec Pierre, le ton monte. Sans ménagement, il lui suggère de prendre un amant et lui exprime tout le dégoût qu'elle lui inspire. Yvonne est anéantie mais amoureuse, toujours. Aveuglée par ses sentiments, elle tente même de reconquérir son mari. Dans une lettre, elle lui écrit « Mon petit Pierre chéri, je me rends compte que je n'ai pas volé ce qui m'arrive. J'ai de la déférence pour ta supériorité. » Mais Pierre n'a que faire de cet amour fou. Ce qu'il veut, lui, c'est divorcer. Il a parlé à son ami François Mitterrand de son mariage qui n'en était plus un. Il lui a dit « Ma femme veut m'abattre, mais ce n'est pas grave car elle ne le fera pas. » Mitterrand l'a mis en garde. « Fais attention, Pierre, les crimes passionnels, ça existe. » Pierre ne l'a pas écouté. Le drame se produit le 12 août 1951. Pierre et Yvonne se disputent, les insultes pleuvent. Pierre annonce qu'il va épouser Jeanne Perrault. « Si tu fais ça, je me tue !» crie-t-elle. Elle s'empare du revolver qu'elle gardait chargé pour mettre fin à ses jours. « Mais tue-toi » crache-t-il, « c'est ce que tu auras fait de plus intelligent dans ta vie !» Trois coups de feu retentissent. Pierre s'effondre. Quelques minutes plus tard, Yvonne frappe à la loge de l'immeuble. Elle demande à la concierge de garder son fils Mathieu un petit moment. Elle ne donne aucune explication. La gardienne récupère le gamin. Yvonne remonte dans son appartement. Deux autres coups de feu retentissent. Inquiète, la concierge grimpe l'escalier et sonne à la porte. Yvonne ouvre et déclare « J'ai tué mon mari ». Dans la chambre, Pierre Chevalier gît au milieu d'une mare de sang. Yvonne appelle elle-même la police. Lorsque les forces de l'ordre arrivent sur les lieux du drame, elle les accueille, tout de noir vêtu. Elle porte déjà sa tenue de deuil. Pendant 9 heures, les enquêteurs l'interrogent. Elle avoue tout. Comment elle a appris que Pierre avait une maîtresse, comment elle a sorti un revolver et menacé de se suicider devant lui. Et comment, devant sa réaction méprisante, elle a finalement dirigé le canon vers son époux. Son fils Mathieu était terrorisé. Alors, elle l'a emmené chez la concierge avant de remonter s'agenouiller devant le corps de son mari. Elle voulait le rejoindre dans l'au-delà, puis s'est ravisée au dernier moment. Elle ne pouvait pas se résoudre à abandonner sa famille. Alors, elle a de nouveau tourné son arme vers Pierre. Deux dernières balles ont pénétré le corps sans vie. Il avait 42 ans. Au moment où la police fait sortir l'épouse meurtrière de l'appartement, la nouvelle a déjà fait le tour de la ville. Des centaines d'Orléanais bouleversés assiègent l'immeuble. À son passage, la foule éructe. À mort ! À mort ! Dans les jours qui suivent, le crime fait les gros titres des journaux. Pour l'opinion publique, l'affaire est entendue. Yvonne Chevalier doit être condamnée. D'un point de vue judiciaire, cela semble une formalité. L'accusé n'a jamais nié sa culpabilité. Tout semble conduire Madame Chevalier droit à l'échafaud. Mais il faut encore établir le mobile et rassembler des preuves. Le 5 novembre 1952, près d'un an et trois mois plus tard, le procès s'ouvre au palais de justice de Reims. On y a délocalisé les audiences parce que les faits suscitaient trop d'émotions dans le Loiret. L'accusé se présente devant les jurés, amaigri, le regard terrorisé. La salle est bondée et 3000 personnes qui n'ont pas pu entrer attendent dehors. Le service d'ordre peine à les contenir à l'extérieur. Comme le jour du drame, lorsque la police a sorti Yvonne de son appartement, des cris fusent de la foule. Mais cette fois, on ne réclame plus la peine de mort pour Yvonne, mais sa libération. Car depuis plusieurs semaines, la presse a relayé les détails de l'enquête et révélé au grand jour le climat de tension et de mépris dans lequel vivait le couple Chevalier. Le public a découvert l'autre visage de Pierre Chevalier et l'engrenage dans lequel le mari volage et la femme bafouée vont plonger ensemble pour le pire. Le président de la cour d'assises prend la parole. « Plus la plaie de votre cœur s'élargissait, plus vous abusiez des excitants », résume-t-il en s'adressant à l'accusé. « Vous mangiez une côtelette par semaine, vous buviez un litre de café, vous fumiez sans cesse, vous preniez des somnifères pour dormir, du Maxiton pour vous réveiller, vous étiez intoxiqué. » La salle écoute, émue, le récit de leur descente aux enfers. Yvonne s'effondre. « Il a dit que j'étais une ignoble salope », souffle-t-elle. Puis elle jure qu'elle n'a jamais voulu sa mort. « Je l'aimais tant, je l'adorais !» Les psychiatres rendent leur conclusion. Le jour du meurtre, Yvonne Chevalier se trouvait dans un état moral si délabré qu'elle ne peut être tenue responsable de ses actes. Vient ensuite la plaidoirie de l'avocat général. D'ordinaire impitoyable, il se montre d'une grande clémence. Il ne requiert que 2 ans de prison ferme. Les jurés se retirent pour délibérer. 40 minutes plus tard, de retour dans la salle, ils rendent leur verdict et déclarent Yvonne Chevalier non coupable. L'impensable s'est réalisé. on vient d'acquitter la femme qui a tiré 5 balles de revolver sur son époux. À l'annonce du jugement, la salle et la foule massée dehors explosent de joie. Et lorsque la police accompagne Yvonne en dehors du tribunal, on l'accueille en héroïne. Le lendemain, la nouvelle fait la une de tous les journaux. La plupart se félicitent de ce jugement. Seuls les médias étrangers haussent le sourcil. Les Anglais, surtout, se moquent de cette charité romantique à la française. Ils s'indignent du dangereux précédent que ce verdict établit. « Si une femme peut impunément abattre son époux parce qu'il la trompe », écrivent-ils, « tous les hommes de France ont du souci à se faire ». On prophétise ironiquement une hécatombe masculine. Mais dans l'Hexagone, on approuve majoritairement la décision de la cour d'assises. Même l'Église catholique octroie à Yvonne Chevalier l'absolution pour son crime. Dans les semaines qui suivent l'annonce du verdict, le procès se poursuit dans les chaumières et les cafés. Rares sont les accusateurs, nombreux les avocats. Au fond, on ne juge pas l'assassinat, on juge le couple Chevalier et sa dérive effrayante. L'opinion publique s'est identifiée au calvaire de cette épouse éperdue d'amour. Yvonne terminera sa vie en Guyane, où elle soignera les lépreux jusqu'à sa mort en 1978. Loin, très loin, des lieux de son terrible passé.
Ce texte, écrit par Thibaut Panis et adapté par Bénédicte Aubry et Christine Ivarenne, a été enregistré par Christine Ivarenne. Mixage de Julien Louette.
Vous avez écouté Fait d'hier. Nous attendons vos réactions et vos commentaires. N'hésitez pas aussi à nous noter sur les plateformes et à partager avec votre entourage. Rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir une nouvelle affaire criminelle.